C'est quoi ça, la diagonale du vide ?
Alors, la diagonale du vide est une large bande où les densités de population sont relativement faibles par rapport au reste de la France. Ça, c'est bon pour la Creuse, ça, c'est vrai. Le terme est bien choisi et bien trouvé. On peut faire des kilomètres ici, à pied, sans rencontrer une âme.
C'est Mathieu Noël et on a 20 minutes pour tout comprendre à ce qu'on appelle la diagonale du vide. À mes côtés, Manon Mariani, Quentin Lui et Cyril Lacarrière. Et on accueille Max Rousseau. Bonjour Max.
Bonjour.
Merci d'être sur Inter cet après-midi. Vous êtes politiste et géographe. Vous êtes chargé de recherche au laboratoire Ardev à Montpellier. Vous allez nous dire si cette expression de diagonale du vide est toujours si pertinente en 2024. Ça sera en tout cas l'occasion pour nous de zoomer sur la persistance des inégalités territoriales en France. Rien que le fait de parler de diagonale du vide, est-ce que c'est pas un peu méprisant pour celles et ceux qui vivent tout simplement dans ces régions ?
Alors, pas forcément, parce que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes, surtout depuis une trentaine d'années, qui retournent dans ces régions, parce qu'elles y voient des terres d'opportunités. Hein. Par exemple, si vous voulez recommencer votre vie pour vous lancer dans la permaculture ou dans l'élevage, ou même vivre en camion, eh ben, c'est plus facile de faire ça dans les Cévennes, hein, ou dans d'autres parties du Massif central que dans l'agglomération parisienne, par exemple. Voilà. Sinon, je pense que la diagonale du vide, c'est une notion politique, hein, qui permet de politiser des inégalités territoriales. Quand on parle de diagonale du vide, ça veut dire que en creux, il y a aussi d'autres régions qui se remplissent. Voilà. Et donc vous videz parce que d'autres se remplissent et ça vous permet, en tant par exemple d'élu local, de politiser une situation qui va être jugée comme inacceptable et de récupérer, pourquoi pas, des investissements publics.
Ah, donc on va le voir pendant cette heure, c'est-à-dire qu'il y a des gens dans la diagonale du vide, des maires, des responsables locaux qui jouent un peu de cette notion-là pour attirer des fonds.
Ils en jouent. C'est-à-dire, c'est pas très bon pour votre image de marque, mais à certains moments, quand vraiment les choses vont vraiment mal, il faut interpeller l'État et donc c'est là que ce type de notion peut s'avérer utile.
Alors Cyril, je vous pose la question, d'où ça sort la diagonale du vide ?
De l'exode rural. Entre 1840 et 1850, la population rurale française atteint un pic. 27,3 millions de personnes vivent à la campagne. Et puis, tout bascule. À partir de 1870, plus de 100 000 personnes quittent chaque année les zones rurales pour aller s'installer en ville. Le phénomène va durer comme ça jusqu'au milieu du XXe siècle. Durant les Trente Glorieuses, la part de population urbaine va même exploser. Les Trente Glorieuses, je le rappelle, c'est entre 1945 et 1973. Pour vous donner une idée de ces déplacements de population, en 1936, 53% de la population vit en ville. En 1968, c'est 70% et c'est plus de 80% aujourd'hui.
Et comment vous expliquez donc cet exode ?
Plusieurs raisons, dans le désordre, la disparité entre la campagne et la ville, le manque d'emploi dans les zones rurales, une pression démographique trop importante. Et en parallèle, la ville devient une promesse de travail, de prospérité et d'enrichissement intellectuel. C'est à ce phénomène qu'on doit cette diagonale du vide. Les Français ont déserté une partie du territoire où ils n'avaient plus rien à faire, qui ne leur permettait plus de vivre correctement. Mais comme tous les phénomènes, cette augmentation de nombre de citadins a ensuite ralenti à partir de la fin des années 70, et le nombre d'urbains stagne même carrément depuis le début des années 2000. Pour autant, la part des Français qui vivent dans une zone rurale, elle, baisse continuellement. En 2022, elle était de 18,5%. Alors, qu'est-ce que cette diagonale du vide dit du désamour des Français pour les campagnes ? Est-ce qu'elle est un symbole de l'extrême centralisation de notre pays ? Qui sont celles et ceux qui vivent encore dans cette diagonale du vide ? Sont-ils des laissés pour compte ? Peut-on imaginer un repeuplement de cette zone ? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci beaucoup Cyril, et tout ça sans point d'exclamation sur votre feuille. C'est ça qui est une prouesse quand même. Max Rousseau, revenons pour démarrer cette émission sur cet exode rural du milieu du 19e siècle, quitte à prolonger un peu ce point historique. Ça a été le résultat d'un rejet de la campagne, de l'attrait de la ville, les deux combinés ?
Alors c'est les deux combinés, effectivement. En fait, les campagnes étaient quand même très peuplées, hein, comme ça a été bien dit là, juste à l'instant. Et donc vous avez déjà des débuts de modernisation agricole, des phénomènes de concentration de terres qui font que vous allez avoir une population rurale un peu surnuméraire, hein, donc qui va essayer de chercher des points de... Ça va être les facteurs un peu push, hein, ceux qui vont pousser les gens. Plus des maladies comme le phylloxéra à la fin du 19e siècle qui va décimer une partie de la production viticole. Et parallèlement, vous avez effectivement des industries qui sont plutôt localisées dans les grandes villes, qui vont avoir besoin de main-d'œuvre bon marché, et donc ça va être ces paysans déracinés qui vont aller peupler les faubourgs en général assez vétustes, hein, de ces grandes villes en pleine expansion, comme typiquement la Seine-Saint-Denis au nord de Paris, ou la banlieue est de Lyon, etc., etc.
Et c'est quoi les premières zones historiquement qui ont été touchées au sein de la diagonale du vide par cet exode ?
Alors au début, c'était plutôt les zones de montagne. montagnes méditerranéennes, hein, les Pyrénées, le Massif central, tout simplement parce que c'est des zones où la production agricole est la plus difficile. Hein. Il y avait des cultures en terrasse, mais c'est quand même coûteux à maintenir. Donc c'est d'abord ces zones-là qui étaient très très peuplées, qui sont dépeuplées plus précocement. Et puis ensuite, ça a gagné d'autres parties du territoire, hein, progressivement, avec un pic, hein, après la Seconde Guerre mondiale, justement, sous les Trente Glorieuses, où là, ça a vraiment été massif.
Et est-ce qu'avant cet exode historique, cette diagonale, elle était déjà moins dense que le reste du pays, ou c'était la même chose et elle s'est vraiment formée à ce moment-là?
Les campagnes étaient très denses. Hein. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ces phénomènes de migration, plutôt que d'exode, hein, qui est un terme quand même qui est très connoté là encore, ces phénomènes de migration urbain-rural, elles sont très très anciennes. Déjà sous l'Antiquité, on avait des phénomènes qui sont liés à des changements climatiques, qui peuvent être liés à des pandémies, etc., à des crises de surproduction agricole, à des guerres, à des invasions. Donc c'est pas quelque chose de si nouveau que ça. Donc là, effectivement, la diagonale du vide, enfin ces zones de faible densité qui structurent encore aujourd'hui le paysage français, elles apparaissent au 19e siècle. Donc c'est pour ça que ça a structuré notre imaginaire. Mais je pense qu'il faut prendre un petit peu de hauteur et puis voir en fait que c'est quand même plus cyclique que ce qu'on pense.
Elle est belle, elle est riche d'histoire, mais depuis l'exode rural du 19e, elle est très peu dense. Zoom aujourd'hui sur cette partie de la France qu'on appelle la diagonale du vide. Avec vous, Max Rousseau, je rappelle que vous êtes politiste et géographe. Expliquez-nous cette diagonale du vide. Déjà, quels sont les territoires qui en font concrètement partie? Quels sont leurs points communs et aussi leurs différences? J'imagine que c'est pas homogène tout ça.
Ouais, tout à fait. Alors, les territoires, en gros, c'est une bande qui s'étend de la frontière belge, hein, pour le dire simplement, de territoires comme de départements comme la Meuse, les Ardennes, jusqu'aux Landes et aux Pyrénées, hein, en passant par le Massif central. Alors, elle est pas homogène, non, parce que déjà, on y trouve des villes. Alors, contrairement à ce qu'on dit généralement, il y a des grandes villes, hein, il y a Reims, par exemple, ou Limoges, qui sont des villes universitaires, donc qui ont des fonctions quasi métropolitaines, hein, donc qui sont quand même très, très séparées de la représentation qu'on peut avoir de la diagonale du vide. Et moi, je diviserais la diagonale du vide en deux grands ensembles, avec pour centre, si vous voulez, Lyon et la Nièvre. Au nord, donc c'est le quart nord-est, c'est là que vont se concentrer les difficultés, le déclin, donc la dépopulation, encore jusqu'à aujourd'hui, la paupérisation, et puis l'abstention politique, hein, que l'abstention aux élections qui explose à partir des années 2010, elle se structure à partir justement de ce quart nord-est à ce moment-là. C'est là que c'est également la partie de la France qui est la plus touchée par la crise de 2008, la crise financière. Mmh. C'est une partie industrielle, même si elle est rurale. Ce sont des petites usines, des scieries, ça va être de l'agroalimentaire. C'est des usines qui sont aux mains d'entreprises généralement internationales et qui vont vraiment être très très affectées par la crise à partir des années 2010. Donc là, se concentrent les difficultés de la diagonale du vide. Ensuite, vous avez la partie sud de la diagonale du vide, sud-ouest, donc Massif central jusqu'aux Pyrénées, où là, ça va quand même dans son mieux. Hein, ce sont des densités très faibles, mais on note des retours de population.
Ah, c'est là que les gens reviennent.
Oui, absolument. Ils ne retournent pas dans les campagnes industrielles du nord-est. Mmh. Ils vont plutôt s'établir dans le Limousin, dans le Périgord, depuis assez longtemps, avec même des étrangers. Hein, ce sont des campagnes mondialisées, d'ailleurs.
Et j'imagine, quand vous dites qu'ils reviennent, on parle d'actifs. Hein, c'est des gens qui vont s'installer pour travailler. C'est quoi les professions qu'on retrouve dans cette diagonale du vide, côté sud?
Alors, vous avez de tout. Alors, vous avez des retraités. Ça, depuis les années 90, il y a un phénomène de retraités anglais ou belges ou néerlandais qui vont s'installer sur les parties les plus attractives, donc le Périgord, mais également dans d'autres parties peut-être moins attractives du Massif central, hein, selon leur niveau de revenus. Mmh. Et puis, vous avez, chez les actifs, là, vous avez ce qu'on appelle les néo-ruraux. Hein, donc, c'est un terme qui est très à la mode, surtout depuis la pandémie. Je pense que vos éditeurs connaissent bien ce terme désormais. Oui. Donc là, les néo-ruraux, c'est des gens intéressants parce qu'ils vont rompre, c'est pas du tout comme des cadres en télétravail qui vont rester finalement ancrés dans leur ville d'attache. Là, ça va être des gens qui vont rompre avec leurs activités urbaines et s'installer pour reprendre par exemple une activité agricole, d'élevage ou pourquoi pas des gîtes, etc. En milieu rural. Donc eux vont relancer vraiment un développement local.
Et ils sont vraiment ancrés localement.
Absolument. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant pour des territoires en déprise.
Manon,
je suppose que c'est différent en fonction des zones aussi, mais est-ce que c'est aussi des zones qui sont moins desservies par les transports? Je suppose que ça n'aide pas non plus.
Alors ça, c'est sûr que si jamais on doit définir la diagonale du vide, on va la définir comme la zone de dépendance à l'automobile. Mmh. Et d'ailleurs, c'est intéressant, il y a un démographe qui s'appelle Hervé Lebrun, qui est très un des démographes plus connus en France, qui au moment de l'explosion des gilets jaunes a produit une carte intéressante montrant qu'il y avait une surdensité de la diagonale du vide parmi les gilets jaunes français. Donc, ce qui n'était pas étonnant, puisqu'effectivement, au départ, ce qui provoque l'explosion des gilets jaunes, c'est cette fameuse écotaxe sur le carburant. Voilà. Et un des seconds moteurs des Gilets jaunes, c'était la désertification des services publics. Et donc là, c'est pas non plus étonnant, puisqu'effectivement, qui dit dépopulation et faible densité, dit moins de services publics et même moins de services privés, fermeture des clubs, de classes, etc.
Quentin. Certains ont une vision plus large de la diagonale du vide, parce qu'il y a d'autres départements français qui sont pas dans la diagonale de la Meuse aux Landes, mais qui sont concernés, les mêmes problématiques. Je parlais de l'Orne, d'où je viens pour rigoler tout à l'heure, mais c'est le cas, j'imagine.
Tout à fait, vous avez complètement raison. On pourrait également inclure la Corse, l'arrière-pays de la Corse, pas le littoral. On pourrait inclure l'intérieur, la Bretagne intérieure. On peut inclure certaines franges de la Lorraine ou de l'Alsace. On pourrait inclure le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, une partie de la Picardie. Donc oui, moi je pense qu'il faut personnellement, je pense qu'il faut arrêter avec la diagonale du vide, hein, c'est mon point de vue.
À 17h, on arrête la diagonale du vide. Après, on n'en parle plus jamais.
Je pense que ça a pu être intéressant historiquement, mais que maintenant il faut avoir une nouvelle vision des inégalités territoriales dans un pays comme la France.
Il faut trouver un autre nom, parce que nous, les journalistes, on aime bien les noms qui claquent.
D'accord.
On cherchera ça.
Je vous propose espace délaissé.
Et pour parler de cette fameuse diagonale du vide, Quentin, vous êtes allé interroger les gens, non pas dans la rue, mais carrément dans la diagonale du vide.
Notre train desservira les gares de Vierzon, Issoudun, Châteauroux, La Souterraine, Limoges Bénédictin, Usherche et son terminus Brive-la-Gaillarde. Arrivée prévue 15h02.
Vu la liste énumérée dans ce TER, on peut même dire que j'en ai traversé une bonne partie. Les plaines vertes divisées par des rangées de poteaux électriques. Je descends à l'heure du déjeuner dans cette commune nommée La Souterraine, 5000 habitants au cœur de la Creuse. Je sors de la gare où les devantures d'anciens restaurants-hôtels sont laissées à l'abandon. Je rencontre ce monsieur qui adore la radio et les imitations.
Bonjour.
C'est quoi votre prénom, monsieur ?
Antoine.
Ah, vous méfiez pas, je suis gentil, vous savez.
Ah bon ?
Ouais. Vous faites une imitation ?
Oui, j'en fais pas mal. Vous avez connu les Shadocks ?
Les Shadocks, prenez l'eau de devant pour la mettre derrière.
Il est pas là ?
Claude Pieplu, évidemment. Ouais. Ah oui, ça fait plaisir devant moi, on s'y croirait, je lui fais lire.
Alors, la diagonale du vide est une large bande où les densités de population sont relativement faibles par rapport au reste de la France.
Ça, c'est bon pour la Creuse, ça, c'est vrai. C'est une belle image pour dire une vérité. Le terme est bien choisi et bien trouvé. C'est vrai qu'on peut faire des kilomètres ici, à pied, sans rencontrer une âme.
Il me dit qu'il a vécu dans d'autres parties de cette diagonale du vide.
J'ai passé 10 ans dans Lyon aussi. C'est à peu près la même campagne. Hein. Beaucoup d'activités qui disparaissent. Il y a quand même des mômes qui jouent au football. Il y a des clubs.
Ouais. Et comment les mômes ici, les jeunes ?
Assez poli quand même. À part dans les cars, il y en a qui mettent les pieds sur les sièges. Ça me défrise. Il y a des gosses qui ont osé me dire « Tu cours vite ?» J'ai dit « Pourquoi ?» Il me dit « Parce que va falloir courir, la cavilcie est en train de te rattraper. » Petit con, va.
Ils ont dit ça ?
Oui, ils m'ont dit ça. Parce que c'est des petits cons.
Et vous, Mathieu, vous courez vite ? Je demande à Antoine s'il voit des jeunes partir d'ici.
Ah, ceux qui n'ont jamais rien connu de la vie, ils ont intérêt. Tout est ailleurs.
Je remonte la rue de Lavaux qui mène vers le centre-bourg de La Souterraine et je rencontre Gaspard et ses potes.
Bonjour, bienvenue à La Souterraine.
Vous avez quel âge ?
16 ans. Bah écoutez, moi je suis étudiant.
Moi je travaille au kebab en fait en bas et j'aimerais aller dans l'armée plus tard.
Est-ce qu'ils connaissent ?
La diagonale du vide ?
Oui, non, diagonale du vide c'est là où il y a peu d'habitants par mètre carré. Et nous on en fait partie, je crois bien, en Creuse.
Ouais, il y a d'être ça, chacun.
Mais La Souterraine, c'est pas vraiment un lieu où on peut étudier ce qu'on veut.
Ça vous saoule ou pas ?
Oui.
Non.
Ah si, mais sinon, en général, non, il y a pas trop de trucs à faire. Quoi.
Ouais, ici, il y a les gens du collège, lycée, après ils se barrent tous autre part. Hein.
Certains choisissent Poitiers, d'autres Limoges, pour continuer les études supérieures. La porte Saint-Jean ressemble à une entrée de château fort, de la belle pierre, des commerces restants entourent la place du marché. C'est ici que je rencontre David, la cinquantaine, qui ressort du tabac avec des gaules et des caches à gratter. Que fait-il dans la vie ?
Pour l'instant, au chômage.
Vous faisiez quoi avant ?
Avant, j'étais technicien TV pour une grande enseigne, mais que je vais pas dire. Vas-y. La diagonale du vide. On fait avec.
Ou le taf, par exemple.
C'est très compliqué, ouais. En effet, faut dire la vérité.
Vous allez retrouver du taf ici ou pas ?
Bah là, j'en sors, j'attends. Pas en technicien, mais là, en tant que vente en multimédia. Et puis, on est passé les uns après les autres. Puis après, bien sûr, comme ils vous disent, on vous tient au courant.
Je regarde autour de nous et cette place principale de La Souterraine, moi, je la trouve jolie.
Oui, c'est une charmante petite ville, ouais. Parce que je suis natif d'ici, à la base, et j'ai connu mieux, c'était beaucoup plus vivant, beaucoup plus...
Qu'est-ce qui a disparu ?
Plus de magasins. La preuve, on a la preuve. Là. Il n'y a plus que des grandes surfaces et trucs comme ça, c'est tout.
Salut David.
Allez, au revoir et enchanté, Quentin.
Plus loin, alors qu'il sort de sa voiture, j'arrête cet homme qui a un gros trousseau de clés dans les mains.
Bonjour.
C'est quoi votre prénom ?
Quentin.
Moi aussi.
Enchanté.
Enchanté. Vous avez quel âge ?
38 ans.
Qu'est-ce que vous faites là? Vous allez ouvrir la boutique, mais quelle boutique?
La librairie. Librairie L'Apothicaire, à la Souterraine.
Je lui fais lire la notion qui nous intéresse aujourd'hui, la connaît?
La diagonale du vide. Oui, je connais la diagonale du vide, oui.
Qu'est-ce que c'est?
La diagonale du vide, c'est toute cette zone qui est réputée désertique de la France, où il ne se passe rien, où il n'y a rien, et ce qui est complètement faux.
Il me parle des idées reçues qui s'accumulent sur la Creuse. Depuis des siècles, un pays à la terre agricole pauvre, les maçons creusois qui partent bâtir ce que le baron Haussmann a imaginé pour Paris, et les industries automobiles comme GMS qui, en réduisant leur activité, ont aussi vidé le bassin d'habitants. Je le vois agacé.
Bah, ce qui m'agace prodigieusement, c'est qu'effectivement, les personnes qui sont au pouvoir, en fait, en ce moment et même avant, et voilà, sont des gens qui sont, pour la plupart, bien que certains peut-être viennent de zones plus rurales, ont largement oublié ce que c'était, n'ont jamais véritablement vécu ce que les gens qui vivent ici vivent, donc sont forcément loin de ces priorités-là. Ce serait peut-être pas mal qu'ils songent à, par empathie, en fait, à se mettre à la place d'eux et à imaginer ce que c'est. Le manque de considération pour cette diagonale du vide, puisqu'on parle, puisque c'est le sujet, c'est effectivement, c'est pas là que ça se joue, c'est pas là qu'il y a le plus d'électeurs non plus.
Les plus anciens qui vivent une belle retraite dans une diagonale plus tranquille, les jeunes qui s'ennuient et s'en échappent, et les actifs qui tentent de conserver commerce et dynamique, quel visage peut-elle prendre à l'avenir? Des volontés, des idées, des politiques qui s'y intéressent? À la prochaine, ciao La Souterraine.
Alors qu'on a été obligé de placer Manon sous oxygène, notre invité, lui, va bien. Le géographe Max Rousseau est avec nous pour analyser cette diagonale du vide. Je préférais parler d'espace délaissé, hein, comme ça concerne tout le territoire. La diagonale, elle traverse, elle, la France d'est en ouest. Dites-moi, Max, ce qu'on entendait là sur le... Comment il s'appelait votre libraire, mon cher Quentin?
Il s'appelait Thomas.
Il nous dit qu'en gros, il n'y a pas d'enjeu politique
suffisant.
Oui, il s'appelait Quentin,
Quentin,
oui, pas du tout. Il s'appelait comme vous, c'était facile à retenir. Oui, pourtant. Problème d'enjeu politique, peut-être. Pas suffisant, ceux qui réussissent entre guillemets bien sûr sont partis dans d'autres villes, dans d'autres lieux, et ils oublient d'où ils viennent, et ils oublient les problématiques locales, il y a une déconnexion.
Alors c'est vrai que oui, y a, alors ça c'est intéressant hein, ce qu'il dit. Alors c'est vrai qu'en France, ce qui est intéressant, c'est que il me semble bon, il y a pas mal de communes hein, qui déclinent quand même. Faut quand même le dire, un bon tiers des petites villes hein, perdent des habitants de manière structurelle. Mmh. Mais c'est assez récent qu'on en parle. Ça fait 5-10 ans et c'est surtout les gilets jaunes qui ont aidé à mettre ça à l'agenda. Alors que dans d'autres pays comme l'Allemagne, ou l'Angleterre ou les États-Unis, ça fait beaucoup plus longtemps que c'est politisé. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles on en parlait peu en France, c'était parce qu'en fait les grandes villes sont restées à l'écart de ce processus de déclin. C'est plutôt des campagnes, des petites villes dont finalement, je vais pas dire tout le monde se fout, mais qui sont faiblement représentées parce qu'elles expédient peu finalement de personnel, oui, à Paris ou dans les lieux de pouvoir. Hein, c'est vrai.
Et en même temps, une de mes rencontres du jour, c'est Antoine devant la gare qui conseille aux jeunes de partir car tout est ailleurs. C'est dur, quoi, le constat. Comment on change les mentalités avec ce genre de discours?
Alors, c'est marrant que vous disiez ça. Enfin, c'est marrant. On est en train de mener une enquête à Rouen, qui est une ville en déclin typique de la diagonale du vide, hein, qui a perdu à peu près un bon tiers de ses habitants depuis la crise du textile dans les années 70, auprès des jeunes de 15 à 25 ans, ceux qui sont l'avenir d'un territoire, où effectivement, on a vu que, bah, en gros, les trois quarts de nos répondants disent qu'ils vont quitter la ville. Et la première raison, c'est l'ennui. C'est y a pas grand chose à faire. La deuxième, c'est le manque d'opportunités. Et la troisième, c'est le contrôle social. C'est-à-dire que dans des petites villes, peu importe qu'elles soient en déclin ou pas, vous êtes plus contrôlé sur ce que vous faites, surtout si vous êtes une jeune femme, que dans une grande métropole, etc. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui peuvent paraître plus pesantes. Une dernière chose que je voudrais évoquer, si j'ai le temps, c'est que et ça, il y a beaucoup de travaux d'ethnologie qui le montrent. Le rapport à l'avenir n'est pas le même dans les villes en déclin. Il y a une nostalgie très forte qui est liée au passé florissant de la ville, qui fait que c'est population, une partie de la population vieillissante va plutôt être tournée en arrière plutôt que ce qu'on va trouver dans une métropole dynamique, hein, ou même les gens plus paupérisés, plus pauvres, vont être davantage tournés vers... Voilà.
Est-ce que le réchauffement climatique va être un problème aussi pour la diagonale du vide? Je pense par exemple à des villes qui sont placées dans les montagnes. On voit qu'actuellement il y a très très peu de neige, potentiellement il y en aura de moins en moins. C'est un sujet aussi pour eux?
Alors pour les stations touristiques, c'est vrai que le changement climatique, on le voit bien, est déjà un problème. Pour l'instant, en France, ils semblent plutôt gagner les Pyrénées-Orientales ou la frange la plus septentrionale, la plus sud plutôt de la France avec les sécheresses. Au contraire, moi j'ai plutôt l'impression, pour avoir un peu travaillé sur le phénomène d'exode urbain médiatique, que le Massif central, par exemple, voyait beaucoup de vagues d'achats par des gens qui avaient peur du réchauffement climatique et qui voyaient dans le Massif central un refuge et qui cherchaient des maisons avec sources justement pas chères pour pouvoir se planquer en cas de pandémie ou de... d'aggravation de la crise climatique. Ouais.
La célèbre diagonale du vide l'est-elle toujours autant en 2024? Zoom sur cette France où l'on croise moins de 40 personnes au kilomètre carré. Le rêve de Cyril, le cauchemar de Manon. On en parle avec vous, Max Rousseau, géographe et politiste. Entre la mobilisation des Gilets jaunes, dont on a parlé tout à l'heure, fin 2018, ou plus récemment la grève des agriculteurs, on voit une montée du ressentiment de la population rurale, notamment à l'égard des élites qu'ils accusent d'ignorer leur réalité. Cette accusation de déconnexion, elle est légitime, surtout si on se place du point de vue de ceux qui vivent dans cette diagonale du vide. C'est ressenti comme ça?
Oui, elle est certainement légitime parce que effectivement, il y a quand même pas mal d'indicateurs qui montrent qu'il y a une forme de désertification de tout un tas de services qui sont des services fondamentaux pour la vie quotidienne. Alors, je pense évidemment à la désertification médicale qui est quand même bien démontrée, mais on pourrait parler de la désertification commerciale parce que à la fin des années 2000, il y a une loi qui a favorisé l'implantation de grandes surfaces en périphérie des petites villes et qui a contribué à la destruction de l'armature commerciale de tout un tas de petites villes ou de villes moyennes, ce qui a déstabilisé justement les sociétés locales et dont on parle assez peu en France finalement. Donc il y a tout un tas d'indicateurs qui montrent que oui, la situation quand même semble se dégrader, surtout depuis la crise de 2008. Et en ce sens, c'est pas étonnant que effectivement les Gilets jaunes aient demandé ce que Laurent Jean-Pierre a appelé une relocalisation du politique, c'est-à-dire.
Voilà. Dans plusieurs articles, Max, vous abordez la question des inégalités territoriales. C'est vrai qu'on parle plus souvent des inégalités sociales, de manière générale, mais ces inégalités territoriales, elles sont peut-être encore moins traitées que les inégalités sociales aujourd'hui en France.
Ouais, et alors ça, c'est un débat qui vient pas de France, qui vient plutôt d'Angleterre et des États-Unis. Mmh. Suite à l'élection de Trump en 2016, puis au Brexit, des géographes ont montré qu'il y avait une corrélation en fait entre ces votes populistes de droite, disons, et puis le creusement des inégalités territoriales, qui est encore une fois montré avec tout un tas d'indicateurs, que ce soit les prix de l'immobilier, les revenus des foyers, le nombre de médecins par habitant, etc. Et donc, ces inégalités territoriales qui propulseraient en fait une droite populiste radicalisée. Aussi bien aux États-Unis ou en Angleterre qu'en Europe continentale, on voit bien en Pologne, en Hongrie, ce qui se passe actuellement. Et donc, on pourrait peut-être importer ces débats dans un pays comme la France, et on voit bien qu'effectivement le quart nord-est est plutôt la force politique qui est derrière cette radicalisation de la droite qu'on peut constater actuellement.
Dans une étude que vous avez réalisée sur les mobilités résidentielles post-Covid, vous parlez de risque d'un renforcement de la précarité rurale et des difficultés d'accès au logement pour certaines catégories de la population. Qui est concerné? Vous pensez que la ruralité peut encore davantage se précariser?
Oui, alors là, c'est parce qu'en fait, en faisant cette étude, je m'étais rendu compte qu'il y avait beaucoup de transactions qui avaient été réalisées en provenance des métropoles, qui n'avaient pas été forcément suivies de migration, mais plutôt de gens qui avaient un peu peur et qui avaient investi dans certains endroits parce qu'ils avaient peur d'un dérèglement climatique qui s'accélère ou bien de nouvelles pandémies. Donc c'était juste après le premier confinement.
Ah, c'est juste des riches qui ont acheté des baraques en sécurité, pas du tout pour investir le local là-bas.
Non, et vous pouvez les mettre ensuite en location sur Airbnb ou ce genre de choses. Mais donc, en ce faisant, vous allez assécher le marché local, d'autant plus qu'il y a le zéro artificialisation nette qui arrive et qui va limiter la possibilité de construction. Donc, c'est un impact direct sur les populations résidentes qui, bien souvent, c'est bien, ont des revenus moindres, surtout les jeunes, dans ce type de territoire.
Mais quand même, on avait fait une émission, nous, sur les néo-ruraux, et on peut quand même constater que depuis la crise sanitaire, il y a vraiment des gens qui s'y sont installés, qui vivent sur place, qui travaillent même sur place.
Oui, absolument. Alors, ça date pas du tout de la crise sanitaire. La première vague de néo-ruraux en France, ça date en gros des années qui ont suivi mai 68. Ouais. Le Larzac, etc., José Bové, bon, très bien. Ensuite, il y en a eu plusieurs successives. La dernière vague, d'après Catherine Rouvière, qui est la sociologue spécialiste de la question en France, elle débute au milieu des années 2000, et c'est celle dans laquelle on est encore aujourd'hui. Elle se caractérise par deux profils idéotypiques. D'une part, ce qu'elle appelle les civiques, donc c'est des gens qui ont un bon niveau de capital culturel, typiquement des ingénieurs en reconversion, on a beaucoup parlé de la bifurcation à Supagro, là, qui vont tout lâcher à 30 ans, 35 ans, après un burn-out ou autre, et puis s'installer dans les Cévennes, bon, très bien. Et puis vous avez ce qu'elle appelle les pirates. Donc là, c'est plutôt des gens qui vont être sous les radars, qui vont souvent être issus de petites villes en déclin, moyennes du nord de la France ou de Belgique, et puis qui vont s'installer dans des modes de vie plus nomades, dans des camions aménagés ou autres, et qui vont s'installer là encore, soit dans les Pyrénées, soit dans les Cévennes, dans des endroits où vous allez pouvoir vivre plus tranquillement.
Max, vous qui avez étudié ces zones-là, tout simplement, quelle politique publique, comment on les rend plus attractives? Qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Alors moi, je pense que l'État n'a pas choisi la bonne solution pour l'instant. Depuis quelques années, déjà, il y a peu d'argent qui est déversé sur ces territoires. Si vous prenez par exemple le programme Action Cœur de Ville, c'est 10 milliards d'euros sur 10 ans. C'est autant que les Jeux Olympiques à Paris et c'est 4 fois moins que le Grand Paris Express. Donc on reste quand même dans des logiques de métropolisation très fortes. cette logique de saupoudrage, mais qui permettent aux élus locaux de dire, ah ben regardez, on fait des choses, on n'est pas en déclin. Alors que ben, si, en fait, c'est la plupart des villes dans ces endroits sont clairement en déclin, il vaudrait mieux le reconnaître. Moi, je pense qu'il faut reconnaître la nature du problème. Ensuite, on peut le traiter efficacement. On le traite par des politiques sur mesure, en essayant de regarder quelles sont les ressources dont disposent ces territoires. Il y en a plein, en fait. Les ressources, c'est pas seulement attirer des cadres qui vont venir de Paris ou de Lyon, mais il y a des populations locales, il y a des jeunes, il y a des choses à faire. La deuxième chose, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'investissements dans la transition énergétique et écologique, c'est indispensable. Ce qui pourrait être intéressant, ça serait de pas les verser n'importe où, comme c'est le cas aujourd'hui, mais de commencer par les prioriser selon les inégalités territoriales. Donc commencer par comprendre où se situent les territoires les plus en difficulté aujourd'hui, typiquement le Quart Nord-Est, mais également certains quartiers des grandes villes, et commencer par disperser, par prioriser ces investissements dans ces zones les plus en difficulté.
De la France, des espaces délaissés.
Exactement.
On oublie la diagonale du vide.